Christie.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, un invité que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de François Martin, géopolitologue, journaliste, auteur de La France dans le chaos du monde, Le chaos du monde, édition Jean-Cyril Godefroy, paru en février dernier, et par ailleurs, auteur de deux autres ouvrages, L'Ukraine, un bouleversement du monde.
Un basculement
du monde, paru en 2023, toujours aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis aussi Le temps des fractures, paru en octobre 2024, encore aux éditions Jean-Cyril Godefroy, excellente maison d'édition. Chers amis, bonjour. Alors, vous êtes François Martin, en plus d'être un géopolitologue averti, vous êtes un érudit concernant le Moyen-Âge.
Cher ami, je suis beaucoup moins érudit que vous, mais j'essaye de suivre vos traces.
Merci.
C'est bien dit.
Et alors, vous avez une remarquable connaissance, justement, de cet aspect du Moyen-Âge, qui est qu'il a été la matrice de la modernité. On sait que le Moyen-Âge a été fortement décrié par les philosophes des Lumières, comme Voltaire, par exemple.
Bien sûr.
Qui l'ont dépeint comme un âge obscurantiste, parce que marqué par la religion catholique. Ensuite, il y a eu Michelet qui l'a partiellement réhabilité, pourrait-on dire, parce que notamment il a mis en exergue des personnages comme Jeanne d'Arc, etc. Mais enfin, je me souviens, moi, à l'école communale, de livres scolaires avec une gravure où on voyait le méchant seigneur poursuivre un cerf à travers un champ de blé et des malheureux serfs, et non pas cerfs, des malheureux serfs, des paysans qui levaient les bras au ciel parce que le seigneur saccageait la récolte. Or, c'était sa récolte à lui, là, en l'occurrence, le seigneur.
Ben oui.
Il n'avait pas trop intérêt à saccager son propre bien.
Bon. Oui.
Et c'était les images d'Épinal sur le Moyen-Âge qui étaient héritées encore de la Troisième République.
Ah oui.
Et justement, vous êtes de ces penseurs qui réhabilitent le Moyen-Âge à la suite de Le Goff, de Duby, et vous allez
de
citer...
Pernoud, la grande...
Et Régine Pernoud. Alors justement, je vais vous laisser la parole parce que vous allez citer tous ces auteurs et nous expliquer en quoi le Moyen-Âge est la matrice de la modernité.
Voilà, c'est ça. Alors écoutez, moi je suis plus encore qu'un amoureux du Moyen-Âge, je suis un amoureux de la France, bien entendu. Et je suis aussi un amoureux de la vérité. Cette société française, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est fracturée. Et elle est, en fait, son malheur... Moi, je dis toujours que j'ai habité à l'étranger, puisque je suis né au Congo, j'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, et je suis rentré en France à 18 ans, et je suis arrivé en terminale, et j'ai vu les Français, et je me suis dit, jamais j'ai vu un peuple aussi mal dans sa peau, à l'époque, j'avais 18 ans. Jamais j'ai vu un peuple aussi mal dans sa peau.
Et ça a empiré depuis.
Et ça n'a pas changé, ça a même empiré depuis. Et j'ai cherché pourquoi, si vous voulez, c'est évidemment la Révolution et tout ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la Révolution intellectuelle, philosophique, morale, sociétale dont nous allons parler, qui l'a rendu comme ça, et ce que j'appelle cette guerre civile interne qui a fracturé les anciens et les modernes et que vous ne trouvez pas à l'étranger parce que l'Espagne ne déteste pas son Moyen-Âge et son passé, l'Italie ne déteste pas son passé, la Russie ne déteste pas son passé et la France, on a appris aux Français qu'il fallait détester leur passé et qu'il fallait, pour se mettre sous la coupe des Thénardier modernes, je dirais, et on va en rentrer dans le détail, tuer leurs trois parents qui étaient l'Église, la royauté et la paysannerie, qui c'était les trois matrices de cette société extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire, et j'ai lu, évidemment, Régine Pernoud, sur laquelle on va revenir, et surtout son livre que j'ai amené là, qui s'appelle « Histoire de la bourgeoisie en France », qui montre que ce qui a provoqué cette montée, cette fracture, c'est essentiellement la bourgeoisie, qui s'est appropriée des valeurs très modernes, l'argent, le pouvoir, etc. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et qui a mis à bas, bien entendu, la noblesse et la royauté, mais surtout deux choses que l'on ne sait pas, c'est-à-dire l'Église, non pas dans sa partie des grandes l'Église qui était proche du pouvoir, qui fricotait avec le pouvoir, et je rappelle que le plus emblématique de l'époque, enfin je ne parle même pas de Sieyès, mais de
Talleyrand.
De Talleyrand, qui fait la fête de la Fédération, qui est, je rappelle, l'anniversaire, le premier anniversaire de la prise de la Bastille, où on a décapité le chef de la garde, comment il s'appelait, Delaunay.
Delaunay, le gouverneur de la Bastille.
Qu'on a promené sous une pique, en fait, c'est une horreur. On en fait la fête de la Fédération, c'est-à-dire de l'unité, et quelques jours après, on signe ou on fait avaliser la constitution civile du clergé, je crois que c'est deux ou trois jours après, qui est véritablement la guerre civile que Napoléon aura la fermeté d'arrêter. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'on véritablement déclenche la... Et au moment, j'ai lu ça quelque part, où Talleyrand va dire sa messe au moment de la fête de la Fédération, il passe devant Lafayette, il lui dit « Mais vraiment, arrêtez de me faire rire. » Sous-entendu, vous savez très bien que cette histoire, c'est du bluff complètement. C'est pour les gogos et c'est tout. C'est pour ça que quand Marc Bloch dit qu'il y a deux choses importantes en France, c'est, je crois, le baptême de Clovis, dit-il, à la fête de la Fédération. Sur la fête de la Fédération, il s'est complètement planté. Je crois que Marc Bloch était un historien, mais je veux dire, il s'est fait complètement intoxiqué par la façon d'enseigner l'histoire de l'époque, il n'a rien compris. Mais bon, pour revenir à cette période du Moyen-Âge, c'est véritablement la période constitutive de l'histoire de France, complètement. Et il y a un livre qui est assez peu connu, mais que je recommande, qui est trouvable sur Internet encore il est plus réédité, c'est dommage. C'est un livre qui s'appelle « Le triomphe de la raison, pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme ». Et je pense qu'il faut s'arrêter un peu là-dessus.
Et l'auteur
c'est un sociologue américain qui s'appelle Rodney Stark.
Voilà.
Et c'est paru aux éditions, aux presses de la Renaissance. Et c'est un livre qui est paru en 2007. Et il montre une chose tout à fait extraordinaire, c'est que la réussite de la France et du modèle occidental est due en fait par la raison essentiellement et par le fait que, à la différence des autres religions, la religion catholique s'est appropriée complètement la notion de la raison. Et il cite au début du livre une phrase de saint Augustin qui dit « Quel genre de bêtes serions-nous si nous ne devions pas essayer de comprendre ce à quoi nous croyons ?» Donc c'est l'inverse exactement de ce que Voltaire essaye d'expliquer. « Quel genre de bêtes serions-nous si nous ne devions pas essayer de comprendre ce à quoi nous croyons ?» On ne peut pas imaginer une seconde qu'un homme d'une intelligence absolument lumineuse et un chercheur de la vérité comme se laisserait piéger par une religion disant « crois donc et tais-toi ».
Et ça, c'était au IVe siècle après Jésus-Christ. Et puis, il y a eu saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge.
Bien sûr.
La somme de saint Thomas qui a justement articulé la foi avec la raison.
Bien sûr.
En utilisant fortement la pensée d'Aristote.
Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce livre de René Stark, que vraiment je conseille à tout le monde, je l'avais offert à Védrine, avec laquelle j'avais des très bons contacts à l'époque où j'étais président du club HEC Géostratégie. Il était venu plusieurs fois. Une fois, je l'avais rencontré pour discuter de choses et d'autres, et je lui ai amené le livre, je l'ai offert. Il m'a dit « Ah, mais j'ai eu une éducation catholique, donc ça m'intéresse beaucoup, et parce que je l'ai trouvé fondamental. » Et il dit une des choses, en dehors du fait que l'Église s'est appropriée la raison, et c'est la raison pour laquelle raison et foi ont grandi à ce point et ont fait cette civilisation supérieure, je le dis sans forfanterie par rapport aux autres. Et je vais dire un peu pourquoi elle est supérieure, parce que d'autres, si vous voulez, d'autres personnes l'ont également cru. Et il montre en particulier que presque toutes les inventions que l'on attribue à la Renaissance, dont on a voulu faire le parangon de la modernité,
et le point de départ de la modernité,
au Moyen-Âge, le gouvernail à étambeaux dont on parlait, l'astrolabe, ça date du Moyen-Âge, les moulins, on n'en parle même pas, toute
les moulins à eau et les moulins à vent,
le moulin à eau, moulin à vent, les lunettes, tout à fait extraordinaire.
Qui ont permis aux artisans de travailler au-delà de l'âge de presbytie.
Parce qu'à partir du moment où ils commençaient à ne plus pouvoir voir, c'était juste le moment où ils avaient, je dirais, le savoir-faire d'un artiste. Et c'est à ce moment-là qu'ils ne peuvent plus ni travailler, ni enseigner. Donc ça crée un choc, une différence totalement incroyable. Et l'une des autres, et je m'arrêterai là, d'inventions extraordinaires.
Et puis alors, il y a aussi, pour l'attelage des chevaux de labour...
C'est à la fois l'invention du collier, du cheval...
Qui reposait sur les épaules et qui n'en serrait plus le cou.
Voilà.
Et qui ne les étouffait plus.
Parce qu'en fait, le joug ne permet pas de tirer véritablement, puisqu'en fait, il est posé dessus, tandis que le collier est posé sur les épaules. Et donc, l'invention, en même temps pratiquement... du soc de charrue.
Oui.
Parce qu'on oublie qu'à l'époque, on ne connaissait pas le soc de charrue et on utilisait une espèce d'ergot qui permettait de travailler ce qu'on appelait l'arrière de mémoire.
Qui était en bois en général.
Voilà. Et qui permettait de travailler des terres assez peu fertiles du sud avec peu de profondeur.
Voilà.
Mais pas les lourdes terres du Nord.
Épaisse et fertile, mais demandant de la puissance.
Voilà. Donc, l'invention, en fait, à la fois du soc de charrue et du collier du percheron, permet, en fait, ouvre... C'est pratiquement la découverte du pétrole et de l'engrais, si je puis dire. Donc, un changement totalement extraordinaire, et ça, c'est le Moyen-Âge.
Et l'explosion des rendements céréaliers, ça a permis l'expansion des villes, notamment.
Il y a un chapitre tout entier sur, et je ne parle même pas que tout ce qui concerne le capitalisme, avec les lettres de change, avec tout ça, avec la banque,
société en commandite, qui a été inventée au XIIe, XIIIe siècle par les banquiers lombards. Et banquiers lombards
Tout ça, c'est pas la Renaissance. Il finit le livre, alors la liste est incroyable, quoi. Dans tous les domaines, je crois qu'ils ont aussi inventé la forme moderne de la coque avec des...
Les bateaux de haut-bord, c'est-à-dire que le Moyen-Âge invente le bateau de haut-bord, on surélève notamment la partie arrière.
C'est ça.
Et ça permet de s'aventurer au large.
C'est ça.
Tandis que les galères ne s'aventuraient pas trop.
Ah non.
Elles ne s'aventuraient pas vraiment au large dans l'océan Atlantique.
C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, les Vikings ne partaient pas au large non plus, puisqu'on sait, de par la civilisation viking, que ce qu'ils faisaient, c'était essentiellement du cabotage. Parce qu'il fallait qu'ils aillent chercher de l'eau et des vivres, donc ils suivaient la côte et puis...
Une petite nuance quand même. Le bateau viking était un prodige d'architecture navale parce qu'il tenait la mer au large.
Oui, mais c'était pas...
Et il la tenait tout en, tout, tout en pouvant naviguer sur les fleuves et les rivières, parce qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de profondeur.
C'est ça.
Et c'est une technique navale tellement incroyable qu'on s'est demandé comment ils avaient réussi à mettre ça au point.
Voilà.
Il y avait pas de petit rondeau.
Je finis juste
mon petit... petit rondeau, mais il tenait la haute mer. Hein.
Oui,
mon petit paragraphe, pour dire que... d'abord que la différence par rapport à d'autres civilisations, c'est que donc la civilisation religieuse européenne a intégré et accepté la modernité. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est le fait que le principe du haut fourneau a été inventé par les Chinois au XIIIe siècle, semble-t-il. Mais les mandarins chinois l'ont vu comme un risque politique et religieux contre leur pouvoir. Et donc, ils ont fait détruire les hauts fourneaux. Donc, il y a eu dans d'autres civilisations, à la différence de nous, une lutte entre...
Le politique et le religieux.
Entre le politique et le religieux. Le religieux faisant tout pour détruire le politique...
Et l'économique.
Détruire l'économie.
L'économique, en fait.
Pour qu'elle ne lui fasse pas de pouvoir. C'est alors vrai. Que la meilleure preuve que... l'Église n'a pas eu peur, ce sont les centaines d'universités. Donc, si vous êtes une civilisation obscurantiste, la dernière chose que vous voulez développer, c'est l'université et le fait que les érudits et les personnes deviennent des penseurs. Je rappelle l'histoire d'Héloïse et Abélard. Héloïse est à l'université et Abélard est son professeur. Les femmes sont majeures à 14 ans. Ça, Régine Pernoud le raconte. Et je cite là, donc la fin, il dit ceci. « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont adopté le christianisme, y compris sa capacité à nourrir une foi profondément émotionnelle et existentiellement satisfaisante, etc. Mais un autre facteur est le fait qu'il fasse appel à la raison et qu'il soit indissolublement lié à l'essor de la civilisation occidentale. Pour beaucoup de non-européens, devenir chrétien revient intrinsèquement à devenir moderne, et c'est d'ailleurs le goût du socialisme chez des gens comme Hassan II, comme Bourguiba, etc. Hassan II n'a jamais voulu quitter la religion musulmane, mais on sentait qu'il était attiré par la civilisation moderne. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais cette époque,
Bourguiba,
Nasser,
oui.
Tous ces gens-là...
Oui.
Il est tout à fait plausible que le christianisme reste un élément essentiel dans la mondialisation de la modernité. Reportons-nous à cette récente déclaration de l'un des plus éminents savants chinois. Et il dit ceci, « L'une des choses qu'on nous demandait d'examiner était ce qui expliquait le succès et, à vrai dire, la position dominante de l'Occident dans le monde. » C'est un chinois qui dit ça. « Nous avons étudié tout ce que nous avons pu d'un point de vue historique, politique, économique et culturel. Au début, nous pensions que c'est parce que vous aviez de meilleurs canons que nous. Puis nous avons pensé que c'était parce que vous avez le meilleur système politique. Je ne suis pas sûr qu'il continue à le penser d'ailleurs, mais bon.
Oui.
Ensuite, nous nous sommes focalisés sur votre système économique, mais au cours des 20 dernières années, nous nous sommes rendus compte que le cœur de votre culture est votre religion, le christianisme. C'est pour cela que l'Occident est si puissant. Le fondement moral chrétien de la vie sociale et culturelle a été ce qui a rendu possible l'émergence du capitalisme et ensuite la transition réussie vers une vie politique démocratique. Nous n'avons plus aucun doute là-dessus. Et j'ai lu quelque part une autre partie où il disait « Vous, vous ne le croyez pas, mais nous, nous en sommes persuadés. » Donc c'est un peu notre drame en fait d'aujourd'hui, c'est le fait que nous avons tenu entre les mains, et nous l'avons d'une certaine façon, je dirais, la pierre philosophale, la plupart des autres pays en sont persuadés, et nous, nous refusons de le voir parce qu'on nous a dit quelque part « Vos parents sont des traîtres et des ordures, et vous devez les renier. » Et tout notre drame est là.
Ah oui, mais c'est très important ce que dit ce Chinois sur le christianisme. Et il est vrai que...
Et la matrice, c'est le Moyen-Âge, bien entendu.
Et le Moyen-Âge est catholique.
Ben, bien sûr.
Et justement, force est de constater que l'apparition du protestantisme à la Renaissance s'est accompagnée d'un travail de relecture de l'histoire du Moyen-Âge, déjà par les protestants.
Bien sûr.
Ils étaient, à partir d'Amsterdam, qui était à la Renaissance le cœur battant de la pensée protestante, Amsterdam.
Tout à fait.
Et ils ont publié, parce que l'imprimerie venait d'apparaître, des pamphlets où ils stigmatisaient l'Église catholique du Moyen-Âge qui avait précédé et où ils avaient caricaturé l'Inquisition au Moyen-Âge. Et ils avaient déjà fait le travail de minoration ou de calomnie du Moyen-Âge.
Tout à fait.
Et ils avaient en quelque sorte précédé les philosophes des Lumières, ceux du XVIIIe siècle.
C'est ça.
Dans ce travail-là.
C'est ça.
Et la Troisième République réhabilite un peu le Moyen-Âge parce qu'elle a besoin de grandes figures patriotiques. Et c'est donc ça. Elle vivifie le souvenir de Jeanne d'Arc.
Oui, et de personne, mais pas du système philosophique.
Voilà.
Elle a dissocié les grandes figures résistantes dont elle avait besoin dans son œuvre, je dirais, anti-prussienne,
voilà.
de renforcement qui a été très réussi d'ailleurs, dont on a vu que par exemple, la Tour Eiffel est issue de ce courant. C'est une volonté de ressurgir. Mais elle n'a pas été jusqu'à adopter le catholicisme qui aurait été véritablement le cœur de son redressement.
Et d'ailleurs,
à ce titre, si vous me permettez, ce que vous dites est tellement important que il y a un historien, qui est un chartiste d'ailleurs aussi, qui a consacré une partie de sa vie à écrire là-dessus, qui s'appelle Jean Dumont.
Jean Dumont,
qui était donc le patron, je crois, des éditions Critérion, et qui a publié chez Critérion un livre qui est tout à fait à recommander, qui s'appelle L'Église, je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra, L'Église au risque de l'histoire.
Un tout petit peu plus haut, voilà.
Voilà, L'Église au risque de l'histoire, comme j'ai montré avant le livre de Rodney Stark, qui s'appelle... Le triomphe de la raison, où en fait il démonte l'Église au risque de l'histoire, donc il part de tous les Indiens d'Amérique, l'Église véhicule du mal romain, la tolérance catholique et l'Inquisition, etc. Il reprend tous les mythes, en fait, tous les griefs contre l'Église, et il montre que dans la plupart des cas, presque tous, en fait, ce sont des cabales.
Ce sont des constructions mythiques.
Oui, et alors c'est extrêmement bien fait parce que ça s'appelle l'Église au risque de l'histoire. Donc il reprend tous les événements historiques et il montre que presque tout est faux. Moi, après avoir été intéressé par Pernoud et par Stark, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est donc que cette espèce de guerre intestine que nous nous livrons à nous-mêmes entre ceux qui disent l'Église, le Moyen-Âge est notre père et l'Église est notre mère, si on peut dire, et ceux qui disent non, c'était des ordures et des salauds, etc. La modernité a remplacé tout ça, c'est des obscurantistes, etc. Et quand on prend tous ces épisodes, on s'aperçoit que l'histoire anti-chrétienne et anti-Moyen-Âge est totalement fabriquée.
Oui.
Et moi qui allais en Amérique latine, je me rendais bien compte que là où il y avait plus d'Indiens, quand on nous dit le génocide des Indiens en Amérique latine, si je me plaçais au milieu du Rio Grande et je regardais un coup à gauche, un coup à droite, c'est bien au nord qu'il y avait plus d'Indiens et pas au sud.
Le Rio Grande est dans la frontière du Mexique,
Et les États-Unis. Quand on regarde au sud, dans toute l'Amérique du Sud, la plupart des villes, si ce n'est pas toutes les villes, par exemple au Brésil, ont des noms Tupi-Guarani. Fosse de Iguaçu, Iguaçu, c'est un mot Tupi-Guarani, ça veut dire la grande eau. On s'habille encore avec le huipil, qui est le vêtement traditionnel inca. On parle quechua. Il y a des millions, des dizaines de millions de, de gens qui parlent quechua. Où est-ce qu'on parle encore les langues indiennes en Amérique du Nord?
Oui.
Donc en fait, c'est, je dirais, ce sont les chefs politiques et les intellectuels essentiellement protestants nord-américains qui ont monté de fait une fausse histoire pour accuser, et on répète sans arrêt le fait que l'Espagne a détruit, a éradiqué, a génocidé l'Amérique latine. Il montre par exemple, un exemple parmi des tas d'autres, que la mine de Potosí, dont on dit qu'elle
était
au Pérou, on tuait les Indiens par le travail, etc. C'était la plus grande ville d'Amérique latine.
Donc, peuplée d'Indiens.
Peuplée d'Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis à un certain nombre d'années de travail obligatoire. Mais en fait, dès qu'ils avaient fini, c'était tellement rentable que la première chose qu'ils faisaient, c'était de se mettre à leur compte, en particulier les caciques, et de créer, en parallèle de l'activité espagnole, des sociétés privées à eux, où ils exploitaient pour leur propre compte, bien entendu. Donc, il y a eu jusqu'à plusieurs millions de personnes, semble-t-il, à San Juan de Potosí. Donc, j'ai des exemples comme ça par dizaines. Et un autre exemple, alors qui n'est pas développé dans ce livre, mais dont on peut parler aussi, c'est la célèbre controverse sur...
Valladolid.
Sur, je pense...
Sur les Indiens anti-Lunam.
Et pourtant, elle tourne.
Ah oui, donc vous parlez de la controverse sur la position de la Terre par rapport au Soleil.
Voilà, de comment s'appelle-t-il ce savant italien. Comment s'appelle-t-il? On a tous un trou de mémoire là sur...
Et alors, justement,
savant, précisément...
Monté en graine de manière artificielle, parce qu'en réalité, il n'a pas été persécuté comme on l'a
pas
dit.
Pas du tout. Et en plus, en fait, la véritable histoire, son nom va nous revenir dans les minutes qui vont venir, la véritable histoire, c'est qu'il était...
C'est Copernic.
Comment ?
Copernic.
Ça, c'est pas Copernic, non. C'est le système copernicien,
oui.
Mais après, c'est donc l'inventeur de la lunette qui a vérifié
la véracité. Et donc, il faut raconter aux auditeurs.
Donc, je dirais que les élites de l'époque étaient devenues coperniciennes. Par contre, la majorité de la population elle-même et du peuple était ptolémaïque.
Oui.
C'est-à-dire, ce n'est pas la Terre, c'est... le soleil qui tourne autour de la Terre et pas la Terre qui tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Parce que ce que nous voyons avec le soleil, c'est pas que la Terre tourne autour du soleil, c'est que la Terre tourne autour d'elle-même. On a l'impression que le soleil tourne.
Oui. Hein?
Donc, le pape, ami de ce savant, lui a proposé de faire un livre pour mettre en scène les deux thèses dans une atmosphère, je dirais, apaisée.
Donc une atmosphère de dialogue.
Voilà, et ce livre s'appelait « Dialogue sur les deux systèmes du monde ».
Et c'était d'ailleurs l'héritage de la disputatio, mise en exergue au Moyen-Âge, la disputatio, le grec, du latin, disputatio, c'était en fait l'échange des idées, le débat.
Voilà,
disputatio en latin, en fait, c'est le débat en français.
Voilà.
Et ça, c'était mis en exergue dans les universités au Moyen-Âge, l'art de la disputation.
Voilà. Et ça prouve donc que l'Église prend un risque politique, parce que pour le bien de la science et la réalité des choses, elle lui propose de publier un livre, je dirais, avec l'imprimatur de l'Église, où elle rentre, en fait, dans une sorte de débat qui peut lui nuire.
Oui.
Puisque le peuple lui-même était, je dirais, pensé à l'ancienne. Donc, moi, j'aurais été un politicien chevronné de l'Église ou d'ailleurs, j'aurais certainement pas proposé une chose comme ça, mais l'Église le fait parce qu'elle aime la vérité.
Oui.
Et donc, ce pape propose à ce savant de faire ce livre, sauf qu'il triche, par rapport à la proposition qui lui a été faite. Et dans les dialogues, le dialogue sur les deux systèmes du monde, il présente le ptolémaïste comme un parfait imbécile.
Oui.
Donc, il le rend ridicule.
Et donc, il introduit une tonalité polémique dans un débat qui aurait
dû être courtois
et neutre.
Il ne respecte pas l'esprit dans lequel il devait faire les choses. C'est-à-dire, on vous présente les deux, sincèrement. Et pire que ça, il présente à celui qui est censé donner l'imprimatur de l'Église, le nihil obstat et l'imprimatur. Comme on sait, l'Église a toujours deux réponses. Nihil obstat, c'est-à-dire nous ne nous y opposons pas, l'imprimatur, nous sommes d'accord. Donc, il présente l'introduction et la conclusion au cardinal Bellarmin qui est censé donner l'imprimatur, lequel cardinal Bellarmin, en lui disant « Ah ben, oups, j'ai pas tout à fait fini le la partie centrale, mais bon, je vais vous le donner. » Et donc, le cardinal Bellarmin se laisse abuser. Et sur la base d'une introduction et d'une conclusion qui sont tout à fait insipides, lui donne l'accord. Oui. Et ensuite, il publie le bouquin. Ça fait un scandale, évidemment. Ça fait un scandale, puisqu'il n'a pas respecté le... Donc, il est puni. C'est à cause de ça qu'il est puni.
Donc, il y a eu un malentendu.
C'est pas parce qu'il a défendu la modernité contre
nous
l'Église.
Nous remercions un auditeur qui vient de nous appeler, excusez-moi. Le nom que vous cherchez, c'est Galilée.
Ah oui, voilà.
Galilée. Merci beaucoup, cher auditeur.
Ah. Voilà. Merci, cher auditeur.
Merci, cher auditeur. Voilà. Galilée. Ben
donc, Galilée a triché, a trompé ses maîtres.
Oui.
Je veux dire, dans tout autre endroit, en Italie ou ailleurs, il aurait été assassiné.
Oui, oui.
Immédiatement. Il fait passer le cardinal Bellarmin, le pape, pour des idiots, il n'aurait pas survécu.
Oui.
Or là, il finit sa vie en résidence surveillée, mais on n'a pas dû beaucoup l'embêter. Mais c'est pour dire, et on s'est servi de ça après, pour faire de Galilée le chantre de la modernité contre une église obscurantiste.
C'est ça.
Alors que c'est l'église qui a été moderne dans cette affaire,
puisqu'elle
a poussé... Elle s'est servie de Galilée pour essayer de faire avancer la science.
Elle poursuivait ce but et elle a été manipulée par Galilée lui-même.
C'est ça. Et je n'ai plus les noms précisément, mais Copernic et il y a trois ou quatre prédécesseurs donc, dans cette révolution scientifique, ce sont tous des ecclésiastiques. Puisque l'un d'entre eux, je me souviens...
Oui, il y avait les prémices de cette idée.
Il était le président d'une des universités qui était donc catholique de l'époque.
Voilà.
Donc,
et on voit bien...
Je voudrais reprendre l'histoire, je ne l'ai pas fait, mais...
Mais on voit bien...
Mais c'est l'Église qui a poussé à la science, au contraire.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Guggenheim... qui était professeur à l'école normale supérieure.
C'est ça.
Et qui a écrit Aristote au Mont-Saint-Michel.
C'est ça.
Il y a quelques années, avait tout à fait montré le rôle intellectuel positif de l'Église, et notamment pour la transmission des textes gréco-latins.
C'est ça.
À l'Europe.
C'est ça.
Au Moyen-Âge. Et. Qui venait de Byzance et qui notamment atterrissait par exemple dans l'atelier de traduction du Mont Saint-Michel,
c'est ça,
qui était un remarquable atelier de traduction extrêmement dynamique et entre autres ateliers de traduction en Europe chrétienne.
Oui.
Et ça ne passait pas là par l'islam, contrairement à ce qu'on a dit.
Parce que d'ailleurs, ce que ne disent pas ces opposants, c'est que ceux qui avaient transmis ces documents en arabe parlaient l'arabe, mais n'étaient pas des musulmans. C'était des chrétiens moyen-orientaux parlant arabe, comme les coptes.
C'est ça.
Bien entendu. Et d'ailleurs, ce que vous citez est très intéressant, parce que on oublie que toute la cour de Charlemagne parlait le grec.
Oui.
Et il y avait même une partie de l'Europe, je ne sais pas si c'était pas Amsterdam ou je ne sais pas quoi, où toute une colonie, les colonies grecques s'étaient installées et qu'on appelait l'Athènes du Nord, me semble-t-il. Je dis ça un peu de mémoire, mais on parlait grec à l'époque.
Très couramment.
Donc ces gens-là avaient lu Aristote, il n'y avait pas besoin. Peut penser que la branche arabe, non pas musulmane, mais arabe, a été complémentaire, mais elle n'était pas la seule.
Elle n'était pas monopolistique, elle était complémentaire, comme vous dites. Voilà. Bon, l'atelier de traduction de Tolède était effectivement réputé. Et il y a eu des apports aussi de ce côté-là, c'est sûr.
Et c'est très intéressant, si vous me permettez que je rajoute quelque chose par rapport à ce livre que vous citez, c'est que Sylvain Gougenheim, dont vous vous souvenez qu'il a été attaqué de toutes parts, il a perdu son poste, etc., cite dans son ouvrage, et donne en exergue de son ouvrage, un livre qui s'appelle, qui défend cette thèse, qui s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident ». C'est-à-dire, c'est Allah qui a donc récupéré la philosophie grecque et qui nous l'a apportée. Et ce livre est écrit par une pseudo-historienne allemande qui s'appelle Sigrid Henke. Et quand vous vous donnez la peine d'aller savoir qui est Sigrid Henke, vous vous apercevez que c'était une amie personnelle d'Himmler. Donc, en fait, cette thèse comme quoi le Moyen-Âge était catholique, était donc était obscurantiste, et ce sont les Arabes qui l'ont relevé de ses cendres,
intellectuellement,
est une thèse nazie, en fait, qui provenait du fait que à l'époque, le régime nazi veut se rapprocher
de l'islam. Hitler reçoit le grand mufti de Jérusalem.
Qu'il considère comme des grands costauds, courageux, parce qu'ils massacrent, les conquêtes se passent au cimetière, etc. Et que par contre, les chrétiens sont des petits minables qui prient, etc.
Et qui n'ont pas le courage et la valeur guerrière des musulmans.
Voilà, comme ils ont eu en face De Gaulle et Churchill, ils ont dû... What a neck, comme disait Churchill.
Et puis, ils sont
un peu trompés, mais bon.
Oui, et puis comme en général, ces dignitaires nazis étaient parfaitement incultes.
C'est ça.
Ils étaient incultes, en général. Ils n'avaient aucune culture générale, au sens plein
de
termes.
Je me suis donné la peine d'acheter et de lire ce livre que l'on peut conseiller aussi pour montrer la grosseur de la ficelle qui s'appelle donc... Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, moi, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, tellement c'était un tissu de mensonges, d'approximations. C'est un livre de propagande pure. Cette thèse est une propagande pure.
Et ça pourtant, toute
l'intelligentsia française l'a reprise, sans savoir ou peut-être sachant qu'elle était d'origine nazie, pour essayer de détruire la thèse de Gougenheim.
Ça érige toute la doxa encore aujourd'hui, dans les médias du système, etc. Voilà. Et alors, un autre aspect de la thèse de Sylvain Gougenheim. Vous savez que l'on dit que donc la philosophie, la falsafa, c'est-à-dire la philosophie forgée par les penseurs musulmans qui ont été influencés par Aristote. Et effectivement, cette falsafa a été encouragé par les califes abbassides au IXe siècle,
la
dynastie abbasside dont la capitale était Bagdad.
C'est ça.
Et il y a bien eu une falsafa, il y a bien eu une philosophie.
Qui ont eux-mêmes suivi les Omeyyades, qui eux-mêmes étaient une civilisation beaucoup plus souple et beaucoup plus ouverte. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ça, parce qu'aujourd'hui, on sent encore l'influence Omeyyade dans des pays comme le Liban ou comme la Syrie, qui sont très influencés par Byzance, si je puis dire. Donc beaucoup plus souples par rapport aux relations...
Attention, les Abbassides, les califes Abbassides ont, pendant un moment assez long, au IXe siècle, favorisé l'essor de la falsafa contre les oulémas, les docteurs de la loi.
C'est ça.
Et ils ont utilisé leur pouvoir dictatorial pour faire taire les oulémas qui ne voulaient pas entendre parler de la falsafa. Et cette falsafa, cette philosophie musulmane influencée par Aristote, etc., a bel et bien existé.
C'est ça.
Et il y avait les maisons de la sagesse. Et les maisons de la sagesse, sous les califes abbassides, étaient effectivement ouvertes à la médecine, aux sciences naturelles, aux mathématiques, à l'astronomie, à la chimie, etc.
Tout à fait.
Et c'était réellement des foyers intellectuels très créatifs. Et vers le XIIe siècle, les oulémas, notamment à la faveur de l'arrivée des Turcs, des Turco-Mongols, qui ont conquis Bagdad, les oulémas ont complètement éliminé les maisons de la sagesse, ou plus exactement,
ça.
Ils ont expurgé des maisons de la sagesse tous ces savoirs modernes.
C'est ça.
Et ils les ont réduites à un psittacisme coranique, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur du Coran. Mais ce que Guggenheim explique, c'est que la falsafa, bien qu'ayant été très brillante par certains aspects, donc, elle avait ses limites. Et quelles étaient ses limites? C'est que la falsafa jamais ne posait le principe thomiste de saint Thomas d'Aquin de la séparation du politique et du religieux.
Voilà.
C'est-à-dire de l'articulation de la foi et de la raison.
On va y venir.
C'est-à-dire que Guggenheim montre que la falsafa essayait d'insérer des principes aristotéliciens de logique sur la périphérie du corpus doctrinal musulman, mais n'osait pas, et notamment à cause des oulémas qui gardaient quand même une influence, évidemment, et que les califes abbassides n'osaient pas transgresser tout de même. Et donc la falsafa n'osait pas s'attaquer au centre du problème, c'est-à-dire l'articulation de la raison et de la foi.
Mais même, je dirais, c'est même encore plus que ça, je dirais. Vous retrouvez exactement dans ce que vous dites le grief que fait Rodney Stark par rapport aux religions qui considèrent le savoir et la raison comme un ennemi. C'est-à-dire que vous constatez en permanence dans l'islam, dans la philosophie islamique, des tentatives d'ouverture qui sont réprimées par les puristes qui disent non, c'est un danger. Et on n'arrive pas à sortir de là. Si vous regardez toute la période des années 50, des années 60, etc., avec Bourguiba, avec Nasser, avec le Pakistan, avec Atatürk auparavant, etc., vous constatez que l'islam ou les régimes musulmans sont attirés par une certaine forme d'ouverture dont le socialisme fait partie. Et on oublie qu'à cette époque-là, à part les frères musulmans qui existent depuis 1920 ou 1930...
1928, création des frères musulmans par Al-Banna.
Voilà, par Al-Banna. Y a les yeux de Chimène pour l'Occident chrétien de la part de tous ces pays. Bourguiba en est un exemple. Et qui c'est qui détruit, en fait, le socialisme et le système d'ouverture? C'est tant les puristes musulmans, mais surtout, ce sont les États-Unis qui déversent des milliards pour retourner le Pakistan, pour retourner l'Afghanistan, parce qu'ils ont peur que les Soviétiques récupèrent à leur profit l'ensemble de tous ces pays. Donc, c'est nous-mêmes, je dirais, nous-mêmes occidentaux, qui avons détruit l'islam modéré.
Oui.
Et vous avez en permanence cette espèce d'aller-retour où on se dit mais si on est des puristes, on n'a pas accès, la modernité, ça nous coupe. On se rend bien compte quand on est un homme politique musulman, on se dit mais j'ai besoin d'avoir accès à la modernité. Comment est-ce que je peux faire dans mon pays pour fonctionner si les femmes sont tout le temps voilées? Ça marche pas. Comment je peux faire si j'ai pas accès au commerce et au système bancaire international? Ça marche pas. On voit bien que c'est ce que fait Ben Salman. On voit bien que c'est ce que veut faire doucement Ben Salman, mais c'est ce que fait le roi du Maroc. On constate que donc il y a tout ce mouvement.
C'est ce que veut faire le maréchal Al-Sissi en Égypte,
ben bien sûr,
par exemple.
Ce que vous dites. Et l'autre chose que je voulais, l'autre remarque que je voulais faire, et je pense que vous touchez au cœur en disant ça, c'est la distinction, encore une fois, il faut revenir toujours là, dans ce que dit saint Paul, dans les écrits de saint Paul, entre ce qu'il appelle la religion de la grâce et la religion de la loi. C'est ça qui est la différence. Parce que quand vous avez une religion de la loi, c'est la loi qui vous dit ce que vous devez faire pour vous sauver. Donc, vous avez des gens qui respectent la loi, mais en fait, comme personne ne la respecte, parce que on va pas se lever tous les jours pour faire ses 5 prières par jour, on va pas forcément, etc., etc. À ce moment-là, si vous respectez pas la loi, vous avez des juges et vous avez des condamnations et des bourreaux. Donc, vous rentrez obligatoirement dans un système de, disons, dans un système totalitaire. Et en plus, à chaque fois que vous devez prendre la moindre décision, vous devez vous demander si Allah vous le permet ou vous le permet pas. Donc, c'est impossible de faire fonctionner un État et une société moderne. Alors que nous, je vais finir là, nous avons une religion de la grâce, c'est-à-dire une religion intérieure, qui sépare effectivement le religieux, enfin qui sépare, qui différencie le religieux et le politique. Et c'est là notre grande force, parce que les injonctions que nous recevons sont des injonctions intérieures. Si moi je suis un homme politique, j'ai pas à me demander pour prendre une décision, j'ai été conseiller municipal pendant plusieurs mandats, mais si je suis par exemple un ministre, j'ai pas à me demander si Dieu me permet de prendre telle ou telle décision. Ce qu'il faut par contre, c'est que je me demande si ça correspond principalement au décalogue. C'est ça, moi, mon qui est une injonction intérieure. Donc cette différence entre religion de la loi et religion de la grâce qui nous imprègne est absolument fondamentale parce qu'elle fait la différence que vous dites qui est entre le religieux et le politique.
Voilà, alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, il faut prendre toujours des précautions de langage hein, quand on parle de ces choses-là. Étant donné les lois françaises, et bien préciser que François Martin n'est pas islamophobe.
Ah ben non, pas du tout.
On peut même dire peut-être que vous êtes marié à...
Oui, j'ai des musulmans dans ma propre famille, donc...
Voilà, et que votre épouse est d'origine musulmane.
Tout à fait, en partie, oui.
Oui, et donc on ne peut pas vous taxer d'islamophobie.
Ah non, pas du tout. Mais on a le droit de s'interroger sur des... Je veux dire, là encore une fois, nous ne sommes pas des, je pense, des bibles ou des évangiles sur pattes, pas plus que les musulmans sont des Corans sur pattes. Donc on a le droit de discuter d'une philosophie ou d'un système religieux, comme on a le droit de discuter d'un système politique, sans pour autant fustiger les gens qui sont... qui font partie de ce système, ça. C'est...
Oui, d'autant qu'il faut préciser que sur 1,4 milliard de musulmans, je crois, à peu près dans le monde, il y a des centaines de millions de musulmans qui, sans renier leur appartenance à la religion musulmane, souhaitent justement des amodiations, notamment du texte coranique, dans le sens d'une modernisation de ce texte.
Bien sûr, bien sûr.
Et leur mode de vie atteste de leur désir de modernisation.
Bien sûr.
De la pratique elle-même.
Bien sûr.
Dans la pratique, ils sont des modernisateurs, ils sont des réformateurs religieux dans leur pratique. Et les radicaux le leur reprochent beaucoup.
Bien sûr.
Et il y a donc d'énormes... proportion du monde musulman qui n'aspire qu'à une chose, c'est justement à retraduire dans le corpus doctrinal cette praxis, cette pratique assoiffée de modernisme qui caractérise leur mode de vie, justement.
Et encore en plus de ça, nous venons de dire qu'un système politique et un système religieux sont deux systèmes différents, mais nous vivons en société dans un système politique. pas dans des systèmes religieux. Parce que sinon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire de tous les athées? Il faut les mettre en prison. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelque part, des autres religions? Il faut les mettre en prison. Si vous voulez, si vous allez juger la pertinence et la radicalité du système philosophico-religieux dans lequel vous êtes, vous devez exclure 90% des membres de votre pays. Donc, en tant qu'homme politique, vous ne pouvez pas. Oui. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'entre ceux qui considèrent qu'ils ont la perfection de la doctrine, mais qui ne l'appliquent pas, et d'autres qui n'ont pas la perfection de la doctrine et qui cherchent la vérité, qui est le plus fautif? Donc, ça sert strictement à rien, disons, de jeter la pierre aux uns ou aux autres. Ce qu'il faut, c'est chercher dans quel système politique l'ensemble des gens peuvent vivre en harmonie. Oui. Je pense que c'est ça.
Alors, nous avons tout d'abord un bobino à passer, oui. Et puis nous allons ensuite nous identifier.
Tout à fait.
Et dire quelques messages, oui, qui sont arrivés.
Ah oui.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Il ne sera pas trop long que ça nous dise.
Alors, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous écoutez le livre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis qui reçoit aujourd'hui M. François Martin. M. François Martin est géopolitologue, journaliste et auteur de La France dans le chaos du monde. Le chaos du monde qui est paru en février 2006 aux éditions Jean-Cyril Godefroy.
2026. Hein.
2026, oui, excusez-moi, j'ai peut-être ma langue à fourcher. Le thème de cette émission est le Moyen-Âge, matrice de la modernité. Un certain nombre de messages sont arrivés. D'abord, notre cher ami Michel Dumas qui nous dit ceci, très fidèle auditeur. Galilée était un savant italien, promoteur de l'héliocentrisme, qui a amélioré le télescope sans en être l'inventeur.
Tout à fait, c'est tout à fait vrai.
Un autre message dont la personne veut rester anonyme. Bonjour à tous. Les dignitaires nazis n'étaient pas tous incultes. Hélas, sans parler d'Hitler qui disait beaucoup, je ne sais plus quel SS, auteur de massacres sur le front de l'Est, était professeur de grec. Par ailleurs, il dit l'Athènes du Nord, serait-ce pas Liège?
Ah oui.
Oui, je crois, oui. Alors, je corrige ce que dit ce lecteur. Je ne suis pas certain que Hitler était un grand lecteur. Je ne suis pas sûr du tout.
J'ai beaucoup étudié la vie d'Hitler. C'était un grand lecteur, mais le problème...
Il ne lisait que ce qui était dans sa ligne...
Oui, c'est ça. Il avait des œillères qui faisaient qu'il se gavait de lectures ésotériques... assez filandreuse.
Voilà.
Et par ailleurs, il ne connaissait aussi que les auteurs pan-germanistes.
Ah, voilà, oui, c'est ça.
D'accord. Mais il n'avait pas ce qu'on appelle une vraie culture générale, c'est-à-dire que le spectre de ses lectures était très étroit.
Voilà.
Et il n'avait très peu de véritables connaissances historiques, philosophiques, d'histoire des civilisations et d'histoire des... institutionnels et politiques des pays d'Europe.
Voilà, c'est ça.
C'est en ça que je disais que la plupart étaient assez incultes.
Voilà,
Himmler, c'était la même chose. Alors, effectivement, il y a eu quelques cas d'érudits. Goebbels lui-même était très, très cultivé, Goebbels.
Ouais,
et il y a eu quelques cas de gens très cultivés. Mais c'est comme les poissons volants, c'était pas la majorité du genre, tout de même.
Voilà, c'est ça.
Oui. Par ailleurs, Hitler dessinait très bien, et peintre, oui, et puis musicien. Il jouait de l'orgue.
Il avait un orgue. Il était d'ailleurs plus artiste qu'intellectuel.
Oui. Bien. Un autre message que je vais vous lire partiellement, et je vous donnerai ce message parce que c'est toujours un fidèle auditeur qui a des remarques très intéressantes.
Oui.
En voici une. Bonjour à vous. Avec le tout numérique, non seulement nous allons regretter le Moyen-Âge, mais aussi le sort des esclaves de l'Antiquité, car il suffit d'un clic, d'un flic moderne, d'un bureaucrate de Big Brother ou d'un pirate informatique pour effacer votre existence, vous dépouiller non seulement de votre identité, mais de vos comptes et de vos biens.
Ben, je vais répondre à ce monsieur. Oui. D'abord, sa remarque est très intéressante, mais je dirais que c'est pire encore que ça. Et l'informatisation et l'intelligence artificielle ne sont, à mon avis, que la suite d'un processus qui dure depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas remarqué. Moi-même, j'ai travaillé dans le commerce international de l'alimentaire pendant 40 ans, mais j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être au chômage plusieurs fois dans ma vie professionnelle. J'ai été au chômage 8 fois. Et à chaque fois, j'ai retrouvé du travail. Et ça a été parce qu'à un moment donné, je me suis fâché contre mon patron parce qu'il voulait virer une secrétaire pour un travail qu'elle avait bien fait et qu'il voulait, etc. Donc j'ai pris sa défense et c'est moi qui l'ai viré. Ou des parties d'entreprise où j'étais qui ne marchaient pas et l'entreprise a fermé, je suis parti. Enfin, ce n'était pas tous à chaque fois contre moi, mais... Et je me suis retrouvé, une fois en particulier, en 91, au moment où il y a eu, je dirais, la grande purge, de l'autre côté de la barrière, en train de chercher du travail. Et à cette époque, on considérait encore, après ça a changé, que les gens qui ne trouvaient pas, c'était de leur faute. Les gens qui étaient au chômage, c'était de leur faute. C'est parce qu'ils n'étaient pas... ils avaient un problème de caractère ou que c'était des fainéants, etc., etc. Et moi, je me suis retrouvé de l'autre côté en train de chercher du travail dans l'entreprise. Mmh. Et moi, qui étais considéré par l'entreprise en général comme un mouton noir, je me suis aperçu quand j'ai cherché que c'était l'entreprise qui était le mouton noir. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que... je sortais de l'ESSEC, que j'avais fait un exécutif MBA à HEC, enfin... J'avais quand même un certain nombre de... J'avais une expérience professionnelle correcte, etc. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que l'entreprise, dès cette époque, cherchait absolument une seule et unique chose qui s'appelle la conformité. Et je me souviens encore qu'un recruteur me l'a dit. Il m'a dit, monsieur, je vais vous dire la vérité parce que je vous aime bien. Vous étiez deux, j'ai choisi l'autre. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le meilleur choix pour l'entreprise, mais j'ai fait le choix dont je suis sûr qu'on ne pourra pas me le reprocher. C'est-à-dire, j'ai choisi délibérément la personne qui s'inscrivait dans les cases, même si je pense que probablement elle fera rien du tout, et elle fera certainement rien pour faire changer ni sa hiérarchie, ni le système dans lequel elle est. Donc, en termes d'innovation et de caractère, elle n'apportera rien. Par contre, elle s'insérera dans l'entreprise, qui donc est une entreprise de conformité, qui à l'avenir va gagner de l'argent par la conformité, par sa puissance financière, par le fait qu'elle va racheter d'autres entreprises et qu'elle va compresser les charges, etc. Donc par des raisons mécaniques et pas du tout par des raisons d'innovation.
D'innovation, oui.
Alors même que, dès cette époque, on disait l'innovation, l'innovation. Et je me suis aperçu... que l'innovation était en fait un alibi et un prétexte qui cachait un système d'écrasement de l'humanité de l'entreprise. Et aujourd'hui, si vous connaissez un peu l'entreprise, je crois que les problèmes psychologiques dans l'entreprise, type burn-out, etc., ça touche 30% des cadres de cet ordre-là. Donc c'est gigantesque. Donc l'entreprise, aujourd'hui, véritablement, ne fonctionne pas. Et tout ce qu'on a vu dans le sens de l'informatisation et dans le sens de l'IA, ça va dans le sens d'une conformisation, je peux dire, de plus en plus grande de l'entreprise. Donc, à un moment donné, ça va exploser.
Oui.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'en veux pas. Moi, je prends des types qui ont du caractère, qui vont amener d'autres choses. Je suis dans la souplesse, je suis dans la vraie innovation. Donc, il va y avoir des branches, je veux dire, dissidentes, qui vont sortir et qui vont recréer un écosystème économique. Et il existe peut-être déjà, d'ailleurs, je ne suis plus. Mais ce que je veux dire, c'est que rien ne m'étonne aujourd'hui dans le système, et ça existait déjà, je crois que c'était dès le début, dans les années 90.
Oui, oui.
Donc ça fait 30 ans, 40 ans que déjà que c'est comme ça. Et l'IA empire les choses.
Absolument, voilà. Absolument.
Pour si ça, on oui, considère oui. l'IA comme dans le sens où l'homme doit être au service de l'IA et pas l'IA au service de l'homme.
Et l'homme
donc le problème, c'est la formation des personnes, de façon à ce qu'elles puissent utiliser la machine plus puissante. On leur dit, vous aviez une deux chevaux, maintenant on vous donne une Ferrari. Mais on ne vous dit pas, c'est vous qui devez apprendre à la conduire pour que la Ferrari aille là où vous voulez et pas que vous, vous soyez derrière le volant, mais que c'est la Ferrari qui vous emmène là où elle a décidé de vous emmener. Donc je pense que le problème est là, mais on est en plein dans ce système.
C'est tout je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous.
Ce monsieur a fait une très bonne remarque.
Je vous laisserai d'ailleurs ce. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et je l'ai vu en auditant des grosses entreprises, notamment. Il y a une perte de temps, d'énergie. Il ne faut surtout pas sortir du moule.
Voilà.
Dès qu'on commence, des dirigeants d'entreprise craignent beaucoup plus, les grands patrons craignent beaucoup plus l'innovateur que la personne qui est dans le moule.
Alors je me souviens qu'il y avait un des grands patrons d'une des grandes boîtes françaises dans les années 80 qui disait, mais l'essentiel de mon temps et de mon énergie dans mon entreprise consiste à essayer par tous les moyens de casser la conformité, parce que c'est la mort de mon entreprise, c'est la conformité.
Mais nous en parlions avec Laurence quand on parlait de l'innovation du Japon qui a démarré très tôt la robotisation.
Les années 70.
Que les entreprises françaises, enfin européennes, on peut dire, étaient toujours dans de la recherche de main-d'œuvre.
Bon marché, dans le tiers-monde.
Voilà, travaillant sur des chaînes non seulement mécaniques, mais également des chaînes de travail administratives. On le voit très très bien. Le temps passé pour des reportings, de re-reportings et de choses comme ça, voilà, on ne va pas aller plus loin, mais enfin, c'est extrêmement juste.
Oui. C'est une bonne question.
Et vous alors, il y avait d'autres messages.
Nous n'avons pas d'autres messages. Je vous communiquerai donc merci à ces personnes qui nous ont fait ces messages écrits. Ils seront laissés à M. Martin, qui aura ainsi, s'il peut vous contacter, vos adresses électroniques.
Voilà. Alors, moi, je voudrais rajouter un petit mot, puisqu'on fait une revue, c'est ce que vous m'avez demandé.
Oui.
Mon cher ami, de faire un petit peu une revue des livres passionnants sur la question. Il y a ce livre qui s'appelle... De Jean Dumont, qui s'appelle, on le voit là...
Les prodiges du sacrilège.
La Révolution française ou les prodiges du sacrilège, où Jean Dumont explique bien quel était le projet politique de la Révolution, qui est en même temps le projet politique de la modernité, en fait. Et ça, c'est très intéressant. La Révolution, dit-il, c'est sa thèse, c'est attaquer essentiellement à l'Église. Pourquoi ? Parce que l'Église est le cœur, on l'a vu, de la révolution du Moyen-Âge, que j'appellerais déjà la révolution moderne, si on peut dire. La modernité, c'est le Moyen-Âge, en fait.
C'est ça.
Et en fait, on essaie de casser cette modernité pour en faire un instrument pour capter le pouvoir au service de ce que Régine Pernoud développe dans l'histoire de la bourgeoisie en France.
Ah oui.
Voilà. Et cette montée de la bourgeoisie progressive arrive à un moment donné où, explique Régine Pernoud, cette bourgeoisie s'est d'abord débarrassée de la féodalité dans un premier temps et, au départ, ne considère pas qu'elle a besoin de se débarrasser du roi, puisque le roi accepte d'être constitutionnaliste, selon la méthode anglaise, c'est-à-dire le roi se pliera à un certain nombre de règles qui sont fixées par d'autres, en fait. C'est ça le truc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre donc, de ces hommes politiques de l'époque considèrent qu'il faut aller plus loin et leur projet, c'est de détruire en premier lieu l'Église. Et non pas les chefs de l'Église, mais le petit clergé de village, d'où la constitution civile du clergé, pour mettre la main dessus. Pourquoi ? Parce que dans une époque qui est essentiellement paysanne, en fait, le protecteur, celui qui est sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan juridique, des petits paysans, c'est l'Église qui fait un travail tout à fait extraordinaire.
Considérable.
Et si on veut que les paysans soient aux mains de la hiérarchie dirigeante, il faut d'abord casser l'Église. Il faut les casser. Et je rappelle qu'à l'époque, les droits sociaux des paysans sont très importants. Il y a le droit de fanage, parce qu'à l'époque, on coupe les épis en haut et pas en bas. Donc, il reste les fanons, dont on sert pour les bêtes et puis pour les toits de chaume, etc. Le droit de glanage, le droit de veine-pâture et le droit de pêche.
C'était les biens communaux.
Voilà.
Oui.
Voilà. Et l'Église garantit ça. Et elle permet aux paysans qui peuvent être esselés d'avoir une force d'appui extrêmement importante. À partir du moment où on détruit ça, on rend le paysan esselé, et après ça, il faut donc le ruiner. Et ça, ce sont les lois révolutionnaires qui contribuent à ruiner le paysan pour une raison très particulière, c'est que le paysan dispose de ses droits et ne va pas pouvoir les appliquer à cause de ce changement. J'ai oublié ce que je voulais dire.
Oui, non, l'idée donc, que vous développez là, c'est que la bourgeoisie en plein essor veut déposséder la paysannerie de ses avantages, voilà, de biens communaux et son lien avec le curé de village.
Voilà.
Donc à la fois ses avantages matériels et son un adossement spirituel,
voilà.
Alors, de manière à la rendre parfaitement meuble.
Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Lorsque la Révolution vend les biens des émigrés et les biens du clergé pour, soi-disant, rembourser les dettes de l'État, elle vend des grandes parcelles, puisque l'Église n'avait plus que 7% de l'ensemble du territoire, ce qui était donc assez faible, contrairement à ce qu'on a dit, mais c'était des belles terres, disons. Donc les paysans demandent que l'on morcelle les terres de façon à ce que des paysans qui ont peu d'argent puissent racheter des bouts de terre à côté de chez eux.
Et accéder à la petite propriété.
Voilà, c'est ça. Et la Convention refuse. Alors, ils reviennent à la charge en disant, mais puisqu'on n'a pas le droit d'acheter des grandes terres, qui sinon seront rachetées par les grands bourgeois qui ont déjà des grandes terres, mais nous on n'en aura rien, on demande un droit de syndication, c'est-à-dire le droit de l'acheter à 20, à 30, à 50, à 100, et ensuite on se le morcelle entre nous. Ça a été refusé. Donc, une révolution qui est considérée comme une révolution pour le peuple, donc à l'époque pour les paysans, les premières mesures qu'elle plante, c'est de spolier les paysans des terres pour les livrer aux grandes bourgeoisies. Oui, oui. Et je terminerai en disant que celui qui a défendu les droits des paysans à l'époque le plus, c'était un révolutionnaire qui s'appelait Gracchus Babeuf et qui n'a cessé à demander une véritable révolution sociale, donc une réforme agraire de façon à ce que les paysans puissent s'enrichir. On a fini par lui couper la tête.
Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a vu déjà au XVIIIe siècle en Angleterre, avec les enclosures,
voilà.
Et qu'on a vu en Italie au XIXe siècle, quand le Piémont a ruiné la Calabre et la Sicile.
C'est ça.
C'est pour dégager le capital nécessaire à l'industrialisation.
Les paysans ont été à ce moment-là la chair à canon.
Oui, et
donc
de même,
c'est exactement ça le projet politique. Tous ces gens-là se sont rendus compte qu'au bout du chemin, il y avait quelque chose qui était totalement extraordinaire, qui s'appelait la révolution industrielle, et qu'il fallait de la chair à canon. Et je vais terminer, excusez-moi. Si vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec l'informatisation, vous êtes dans une nouvelle forme d'industrialisation pour laquelle il faut une chair à canon, Et le pape actuel qui a écrit cette encyclique qui ne traite pas de l'IA mais de la révolution informatique a pris le nom de Léon XIV, qui est donc le suivant de Léon XIII, qui est celui qui a...
Il a fait Rerum Novarum.
Rerum Novarum, c'est-à-dire le message de l'Église qui a dit la révolution industrielle, c'est pour nous et pas nous pour la révolution industrielle. Donc, on est exactement dans la même schématisation aujourd'hui.
Et il faut remarquer que Staline lui-même, la découlakisation, la dépossession de la paysannerie, c'était aussi pour former... Voilà. En quelque sorte, le capital industriel d'État, cette fois-ci.
Ils n'ont rien inventé.
Mais c'était pour l'industrie aussi.
Et tous les pays que j'ai pu observer dans mes 40 ans de carrière, qui ont commencé par refuser de faire la réforme agraire de façon à ruiner les paysans, ça a été parce que les bourgeoisies possédantes étaient en mesure d'ouvrir des usines autour des villes et d'employer
un nouveau prolétariat.
Voilà. Alors, je rappelle que c'est ça qui a fait la puissance de la Turquie. Et par contre, il faut mettre au crédit de Ben Ali le fait que la première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir après Bourguiba, et donc il a libéralisé le pays, ça a été de borner les terrains d'abord pour que les personnes, paysans ou pas paysans d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes... même riches et importants de la bonne bourgeoisie, étaient propriétaires de terres, mais que donc, il a mis l'effort dans un premier temps sur l'agriculture de façon à rendre le pays autonome.
Oui.
Quand j'ai commencé à travailler dans le lait, l'un des pays dans lesquels j'allais vendre du lait, c'était du lait en poudre, c'était de la Tunisie. Et à ce moment-là, la Tunisie importait 90% de ses besoins en lait. C'était donc au début de Ben Ali. Et 10 ans plus tard, la Tunisie était autosuffisante en lait. Donc Ben Ali a refusé la destruction la paysannerie au profit de l'industrie, alors que d'autres pays, dont l'Angleterre, dont la France, dont la Turquie et d'autres, ne s'en sont pas privés. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est très classique et très habituel. Voilà.
Aujourd'hui, on voit que une grande partie des terres agricoles appartiennent à de la bourgeoisie, tout simplement, qui n'hésite pas d'abord à parfois sacrifier les terres quand ils voient, par exemple, que la construction de champs et d'éoliennes rapporterait plus, à sacrifier des terres agricoles pour très très long moment. Hein.
Mais d'ailleurs, le transfert de propriété de la noblesse, de propriété foncière de la noblesse à la bourgeoisie avait commencé dès le XVIIe siècle. Hein.
C'est ça.
Oui.
Et à la veille de la Révolution, la propriété foncière bourgeoise était plus importante que la propriété foncière nobiliaire.
Hein. Bien sûr, tout à fait. Ou alors ils étaient alliés par le sang. Ils étaient,
et d'ailleurs, on a bien vu qu'il y a eu des études là-dessus, que les paysans, quand ils étaient... sous la tutelle donc d'un aristocrate, avait une paix relativement royale. L'aristocrate n'avait pas un esprit très comptable. Hein. Et puis surtout, il avait un esprit communautaire. Un esprit communautaire.
Tout à fait. De gestion, quand elle était aux mains des bourgeois, était très différente.
Voilà, parce que quand l'aristocrate en question était ruiné et qu'il revendait sa terre à un bourgeois, le bourgeois arrivait avec... son esprit de comptabilité et de rentabilité, et il faisait suer le burnous.
Voilà.
Et du coup, le paysan, il était astreint à des obligations de performance qu'il avait pas avec l'aristocrate.
Bien sûr. Et Régine Pernoud raconte dans ce livre, d'ailleurs, que l'une des personnes qui voit passer défiler les états généraux dans les rues de Versailles fait remarquer que le tiers-État qui défile est habillé 100% en noir.
Oui.
Donc, il n'y a pas un paysan. Je crois qu'il y a un laboureur sur la délégation. Ils sont combien? 200, 300? Tous les autres, ce sont des clercs, ce sont des notaires, ce sont en fait des bourgeois. En fait. Ce qu'on appelle le tiers-État, c'est que les bourgeois. Il n'y a pas un paysan. Donc, cette révolution qu'on appelle... qu'on dit être une révolution populaire, en fait, est un système de prédation organisé par la bourgeoisie pour déposséder la paysannerie de ses droits sociaux.
Et pour ce qui est des représentants de la noblesse, il y en a un certain nombre. Il a fallu que leurs congénères se cotisent pour leur payer le voyage et le séjour à Versailles, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de couvrir leurs frais.
C'est ça.
La paupérisation de la noblesse à partir du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle est phénoménale.
Voilà,
et on oublie de dire que, certes, elle était dispensée de payer l'impôt, mais elle payait un autre impôt, c'était l'impôt du sang.
Oui,
elle fournissait le corps des officiers des armées royales, qui encadraient une majorité de mercenaires suisses, allemands, écossais, etc.
Pour la noblesse d'épée, surtout.
Oui, mais c'était la majorité,
d'épée. Oui, oui.
La noblesse de cour, c'était infinitésimale.
Oui.
Et on s'ingénie à toujours représenter la noblesse sous l'image de la noblesse de cour.
C'est ça.
Mais c'était quantitativement une tête d'épingle,
la
noblesse de cour. Voilà. La noblesse de province qui restait en province, c'était l'écrasante majorité.
Bien sûr, c'est ça. Et on se souvient que des Vauban étaient au départ pauvres, des D'Artagnan étaient très pauvres, tous ces petits nobliaux de province étaient très pauvres.
Et les petits nobliaux, comme vous dites, de province, étaient en contact étroit avec la paysannerie.
Et ils travaillaient souvent,
d'ailleurs, ils aidaient aux travaux des champs, à faucher les blés, etc. Et ces petits nobliaux, comme vous dites, quand il y avait une guerre, ils partaient à la guerre. Moi, j'ai eu trois de mes ancêtres qui sont morts dans les armées du roi sous Louis XIV, trois frères. Eux, ils étaient sur les champs de bataille, ils se gelaient l'hiver dans les sièges, ils n'étaient pas à la cour.
C'est ça.
Mais ça, on n'en parle jamais de ces gens-là.
Bien sûr. Et alors, si on, puisque je vois que le temps avance un petit peu, si on poursuit encore cette réflexion, on en arrive donc, après cette période de prédation, à la mise en œuvre de la politique industrielle antisociale en France, comme ça a été le cas en Angleterre, etc., qui est tout à fait décrite dans le tome 2 de ce magnifique livre de Régine Pernoud, dont nous avons souvent parlé, qui est cette période absolument effroyable du 19e siècle, avec le célèbre rapport Villermé 1840, c'est ça ?
1848, sur l'état de santé de la population française, où on voit que les ouvriers sont dans une misère physiologique absolue, contrairement aux paysans.
C'est ça.
Parce que les paysans avaient les produits de la terre.
Oui.
C'est ça.
Et puis d'autre part aussi parce que le travail dans les usines à l'époque était horriblement toxique.
Voilà.
Il y avait des émanations chimiques épouvantables.
Voilà.
Et une malnutrition considérable chez les ouvriers. Et puis alors un alcoolisme parce qu'il fallait pouvoir supporter tout ça.
C'est ça.
Et pour supporter tout ça, il n'y avait que la boisson.
Et elle raconte en particulier, je crois qu'à un moment donné, il y a une séance du Parlement consacrée au travail des enfants. Et je crois que les enfants travaillent 10 heures ou 12 heures.
C'était incroyable.
Voilà. Et il y a donc une partie donc de ces parlementaires, ces bourgeois parlementaires, qui disent quand même c'est trop, il faut passer à 11 heures au lieu de 12 heures. Et ceux qui défendaient donc
les
12 heures disent non, 11 heures, non, vraiment, c'est pas possible. On va se mettre d'accord sur 11 heures et demie. C'est-à-dire on baisse le travail d'une demi-heure et on considère que c'est beaucoup. Parce qu'il faut éduquer ses enfants par le travail, en fait. Je ne me rappelle plus des phrases.
Oui, et puis en fait, c'était véritablement industrialisé, je dirais, avec quasiment le travail forcé. Je dirais que ça ressemblait assez à ce qu'a fait Staline avec le goulag. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce que la première fonction du goulag, c'était d'industrialiser la Russie soviétique par le travail forcé Et la fonction économique du goulag a été essentielle.
C'est ce que c'est dans une autre forme ce que dit Annie Lacroix-Rise lorsqu'elle parle de l'Holodomor. Elle dit que l'Holodomor, d'abord, c'est pas
en Ukraine, la grande famine
relatif à l'Ukraine, mais également à d'autres régions comme la Géorgie, par exemple, dont Staline était originaire. Les Ukrainiens une politique anti-ukrainienne, mais surtout comme une politique d'une part consistant à voler
c'était la paysannerie. Il s'agissait de
et d'autre part faisant partie du processus de d'industrialisation qui, il faut le dire au crédit de Staline, à travers sa main de fer effroyable, a extraordinairement bien réussi.
Oui.
Puisque au moment où la guerre s'est déclarée, la Russie était une puissance industrielle.
Et c'est
non
ce qui
plus,
lui a permis de vaincre l'Allemagne.
Voilà.
Les Allemands, Hitler n'avait pas compris que les Russes avaient une quantité astronomique de chars et de bonne qualité.
C'est ça. Qu'ils leur avaient appris à construire.
Ouais.
Parce qu'ils considéraient, avant la guerre, les Russes comme tellement stupides et tellement des sous-hommes qu'ils leur faisaient fabriquer leurs chars.
Ouais.
Ils avaient, délocalisé
des usines,
la fabrication
etc.
des chars parce qu'ils pensaient que les Russes étaient tellement bêtes qu'ils ne seraient jamais s'en servir.
Voilà,
manque de peau.
Le préjugé anti-russe, mais qui d'ailleurs perdure.
Un peu ce qu'on a fait avec les Chinois dans les années 2000, lorsqu'on s'est dit on va leur faire fabriquer nos produits, mais eux, ils ne seront jamais capables de faire la même chose pour leur propre compte.
On s'est un peu
trompé.
Et on dit aujourd'hui, qui copie, ça c'est tout à fait normal. Les Chinois utilisent beaucoup la copie, pourquoi pas. D'ailleurs, tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, les Chinois inventent, et regardez notamment vis-à-vis des véhicules électriques.
Comme les Japonais, dont on méprisait la production au kilo de montres et autres dans les années 20. Et avant la Première Guerre mondiale déjà et dans les années 20, puisque l'industrialisation du Japon commence avec l'ère Meiji en 1868.
Voilà. C'est ça.
Et puis après, c'est devenu des champions industriels aussi.
C'est ça. Ça. Donc, si on résume un peu tout ça, d'une part, moi je tirerais deux conclusions. La première, c'est que nous devons tout au Moyen-Âge.
Ouais.
Nous devons tout au Moyen-Âge.
Et d'abord, la
laïcité, qui est, n'oublions pas, une invention de l'Église.
Au Moyen-Âge catholique, il faut préciser. L'important, c'est la catholicité.
Voilà,
parce que quand on fait le procès du Moyen-Âge, on fait le procès de quoi?
De la
catholicité.
Et d'autre part, je finis, mon cher ami,
même pas du christianisme, les protestants. Le procès du Moyen-Âge.
Bien sûr,
et ils sont chrétiens.
Évidemment. Et la deuxième chose, c'est le fait que je déplore encore une fois cette espèce de guerre civile et de guerre idéologique contre la catholicité du Moyen-Âge. Et donc, nous devons faire ce travail de réhabilitation qui sera l'une des clés de notre
renouveau.
Renouveau, tout à fait.
Et vous avez totalement raison, cher François Martin. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous conseille donc de lire La France dans le chaos du monde, le chaos du monde. Alors, on répète deux fois le chaos du monde parce que c'est dans le titre.
Oui, parce qu'au départ, c'était La France dans le chaos du monde, mais le chaos du monde a pris tellement de place qu'il a pris tout le premier tome. Donc, du coup, j'en ferai paraître un deuxième. Au début de l'année prochaine, je pense qu'il parlera plus de la France.
Parce que là,
La France dans le chaos du monde, mais je n'ai parlé en fait que des guerres et pas du redressement de la France. Dans celui-là, enfin, un petit peu, disons, un petit peu.
Ouais. Et donc, c'est paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy en février dernier, donc. Et vous avez encore dans votre esprit de nombreux ouvrages qui fermentent.
Oui, tout à fait. Là, c'est, c'est pas prêt de s'arrêter hein, avec ce qui se passe.
Oui, oui, oui,
je crois qu'on avait une dernière question.
Oui, non, tout simplement, c'est une remarque très intéressante de cet auditeur Jean-Denis qui a envoyé de nombreux messages que nous n'avons malheureusement pas le temps de lire, mais je vous les communiquerai et vous aurez son adresse électronique. Alors, il fait cette petite remarque. Le Moyen-Âge n'avait que peu de moyens techniques, mais le sens de la transcendance, la responsabilité de
mon Dieu. Excusez-moi, se trompe complètement.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Il y avait d'énormes moyens techniques.
Exactement. Nous avons, d'ailleurs, qui a permis la construction des cathédrales. Nous avons les moyens techniques, mais la machine à vapeur et l'énergie d'accélérer. Nous avons pu reconstruire Notre-Dame en 5 ans, alors qu'il avait fallu plus d'un siècle auparavant. Tout simplement parce que les moyens existaient, mais n'étaient pas poussés comme aujourd'hui par...
Il faut vraiment lire le livre de Rodney Stark. Les inventions, on n'a pas le temps de les reprendre, mais toutes les inventions du Moyen-Âge prennent presque un chapitre entier. C'est tout à fait extraordinaire. Dans tous les domaines.
Et même l'artillerie, puisque déjà la couleuvrine apparaît au Moyen-Âge, qui était un petit canon, poudre qui explosait et propulsait un boulet.
Tout à fait.
Eh bien, écoutez, ce sera donc le mot de la fin.
Nous remercions Martine de nombreux messages qu'elle nous a apportés. Nous remercions également Michael pour la réalisation de cette émission.
Tout à fait.
Et bien sûr, Monsieur Martin.
Qui est un esprit extrêmement brillant.
Je constate que nous faisons une finale de Wimbledon tous les deux. Là. Je ne sais pas qui c'est qui se matche et qui re-smatche, mais je trouve qu'on s'entend toujours très bien dans ce genre de thématique qui nous passionne autant que moi, mon cher Laurent.
Tout à fait, cher François. Et je rends hommage à votre grand talent.
Merci beaucoup.
Monsieur. Au revoir, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, assisté par Eric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie de midi à 13h30 et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.